Le CGRI frappe des terroristes retranchés au Kurdistan irakien avec de l'artillerie et des drones. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI d'Iran, annonce qu'il a bombardé hier 11 hommes des positions tenues par des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Selon des sources d'information kurdes, ces frappes d'artillerie du CGRI visaient les hauteurs de Barbzin ainsi que la périphérie des villes de Barbzin et Shoman dans la province d'Erbil. Les sources ont également signalé des frappes de drones à la périphérie de la ville de Galala. Dans un communiqué publié sur son site internet, le CGRI a déclaré que ses forces terrestres avaient démantelé une équipe terroriste basée à Erbil, en Iran, un jour plus tôt et que 5 membres de l'équipe avaient été arrêtés à Bané, près de la frontière occidentale de l'Iran avec l'Irak. Le CGRI a déclaré que les avocats du groupe terroriste révélaient des plans de sabotage en Iran. Sur la base des drones révélés par les terroristes, les forces terrestres sont déplacées pour cibler des bases terroristes dans le nord de l'Irak. Des frappes d'artillerie et de drones du CGRI auraient également visé des groupes d'opposition d'origine kurde iranienne qui ont précédemment lancé des attaques transfrontalières contre les forces gouvernementales iraniennes. Mi-mars, le CGRI revendique le lancement d'une dizaine de missiles balistiques sur la ville d'Erbil, la capitale de la région du Kurdistan irakien. Les gardiens de la révolution ont déclaré que la cible était un centre de renseignement israélien. La frappe de missile aurait été en représailles à une attaque de drones sur une base aérienne du CGRI lancée depuis la région du Kurdistan irakien. L'Iran a démontré à plusieurs reprises sa tolérance zéro face aux menaces provenant de la région du Kurdistan et en dépit de cela, le gouvernement de la région autonome kurde irakien garde sa porte ouverte aux ennemis déclarés de Téhéran. L'Ukraine a perdu 14 avions et hélicoptères ainsi que 30 drones lors de son attaque sur l'île du Serpent, à la suite d'une attaque imprudente sur l'île de Zemeïny. Les forces armées ukrainiennes ont perdu 14 avions et hélicoptères ainsi que 30 drones. Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, lors de l'attaque imprudente des forces armées ukrainiennes sur l'île de Zemeïny, l'armée ukrainienne a subi des pertes extrêmement graves mais n'a obtenu aucun succès concret. En particulier, il a rapporté que les pertes des forces armées ukrainiennes pendant plusieurs jours se sont élevées à 30 drones ainsi qu'à 14 avions et hélicoptères. Pour le moment, on ne sait pas exactement où les avions et hélicoptères ukrainiens ont été détruits. Cependant, selon les données officielles du département militaire russe, il s'en suit que l'attaque prévue a été complètement déjouée. Les experts pensent que des images documentaires pourraient être diffusées dans un avenir proche malgré le refoulement de l'UAF. Cependant, il est aujourd'hui prouvé que l'infrastructure de l'île est presque complètement détruite par les frappes de deux combattants. De plus, les frappes elles-mêmes ont été filmées par la caméra du drone ukrainien Bayraktar TB2. Selon les données du département russe de la défense depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, environ 70 drones de frappe Bayraktar ont été détruits, bien qu'au moment de l'opération spéciale, l'armée ukrainienne ne disposait que de 36 drones. En Ukraine, les autorités de Kherson demandent que la région soit rattachée à la Russie. Les autorités de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine seraient prêtes à demander l'intégration à la Russie selon un responsable local. Pour Moscou, une telle demande doit venir des habitants et avoir une justification juridique claire. Cité par l'agence de presse russe RIA Novosti le 11 mai, Kirill Estremousov. Le chef adjoint de l'administration militaire et civile de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, conquise par l'armée russe, a expliqué que les autorités locales allaient demander leur intégration à la Fédération de Russie. La ville de Kherson, c'est la Russie. Aucune république populaire de Kherson ne sera créée sur le territoire de la région de Kherson. Il n'y aura pas de référendum. Ce sera un décret unique sur la base de la requête adressée par les autorités de la région de Kherson au président de la Fédération de Russie, et il y aura cette demande d'en faire une région à part entière de la Fédération de Russie, a-t-il dit à des journalistes. La ville de Kherson a été prise par l'armée russe en février dans les premiers jours de l'opération militaire lancée par Moscou en Ukraine. Cette région représente un intérêt stratégique majeur pour l'approvisionnement en eau de la Crimée via le canal de Crimée du Nord. Depuis 2014, Kiev avait réduit le débit du canal alors qu'il assurait 85% des besoins en eau de la péninsule, ce qui avait plombé l'agriculture locale. Il a été rouvert dès le 25 février par l'armée russe. La région est aussi un point terrestre entre la Crimée et la République autoproclamée du Donbass. Kirill Estremousov a aussi expliqué qu'il n'était, selon lui, pas nécessaire d'organiser un référendum puisque celui qui a permis le rattachement de la Crimée voisine à la Russie n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Il n'y aura pas de référendum car cela n'a absolument pas d'importance, étant donné que le référendum, qui était absolument légitime en République de Crimée, n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale. Qui a tout fait pour ne pas percevoir la Russie comme un acteur à part entière de la communauté internationale, a-t-il justifié. Une position qui ne partage toutefois pas le porte-parole du Kremlin, qui a réagi à ces annonces en déclarant que la volonté des populations locales de rejoindre la Russie devait être vérifiée. Bien sûr, le sort d'une telle demande doit être décidé par les habitants de la région de Kherson et c'est à eux de déterminer leur propre destin, a en effet déclaré Dmitri Peskov en conférence de presse 11 mai. Et sans doute, ce point doit être clairement et soigneusement vérifié et évalué par les avocats et les juristes, car certainement de telles décisions fatidiques doivent avoir un fondement, une justification juridique absolument claire. Elles doivent être absolument légitimes, comme ça a été le cas avec la Crimée, a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni signe des accords de défense mutuelle avec la Finlande et la Suède. Bien qu'il ne fasse plus partie de l'Union européenne, le Royaume-Uni tente toujours de pousser la Suède et la Finlande dans une lutte sans fin contre la Russie. Et ce, après le coup du sous-marin contre les Gaulois, ces Anglais ne reculent devant rien. OPEX 360 le confirme. La semaine passée, à Helsinki, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a assuré que Londres fera tout ce qui est nécessaire pour protéger la Finlande, qui par ailleurs est à deux doigts de rejoindre l'OTAN et où la British Army vient de déployer des chars Challenger 2 du Queen's Royal Hussars pour participer à l'exercice Arrow. En outre, M. Wallace a également précisé que face à la menace russe, cet engagement du Royaume-Uni vaudrait aussi pour la Suède, qui, comme son voisin finlandais, envisage sérieusement de rejoindre l'OTAN. Et c'est ce que le Premier ministre britannique Boris Johnson vient de confirmer sans omettre en signant à Stockholm un accord de défense mutuelle en cas d'agression. Si la Suède était attaquée et se tournait vers nous pour nous demander du soutien, nous le lui apporterions, a commenté M. Johnson lors d'une conférence de presse donnée aux côtés de Magdalena Andersson, son homologue suédoise. Si un des deux pays devait subir un désastre ou une attaque, le Royaume-Uni et la Suède se porteraient assistance de nombreuses manières, incluant des moyens militaires, a précisé cette dernière. Un accord du même type doit être signé par le Royaume-Uni et la Finlande, selon le service du Premier ministre britannique. Nous sommes fermes et sans équivoque dans notre soutien à la Suède et à la Finlande. Il ne s'agit pas d'un palliatif à court terme, mais d'un engagement à long terme visant à renforcer les liens militaires et la défense de l'Europe pour les générations à venir, a encore fait valoir M. Johnson. Cela étant, cette assistance mutuelle en matière de défense est, en quelque sorte, l'aboutissement de la politique menée par Londres, qui a enchaîné des coopérations militaires avec plusieurs pays d'Europe du Nord, en particulier via la mise sur pied d'une force expéditionnaire commune, Joint Expeditionary Force, JEF, JEF, qui, outre la Suède et la Finlande, concerne aussi les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et les trois États baltes. Cette JEF est placée sous le commandement d'un général britannique et compte 10 000 hommes. Et nous quittons l'Union européenne, mais pas les principes de sécurité européenne. Nous allons utiliser le Brexit comme une nouvelle occasion pour intensifier et redéfinir notre relation européenne de défense, avait résumé Michael Fallon, alors ministre britannique de la Défense, en juillet 2017, écrit OPEX 360, avant de terminer comme suit. À noter également que le Royaume-Uni a noué des coopérations dans le domaine de l'industrie de l'armement, la Suède et l'Italie étant par exemple impliquées dans le projet d'avion de sixième génération Tempest. Le régime de Kiev menace d'infliger un coup choquant à la Russie. Des menaces probablement dirigées contre le pont de Crimée. Les propos de l'un des conseillers du chef du ministère ukrainien de l'Intérieur, Viktor Andrusiv, sont particulièrement remarquables. Ce dernier ayant laissé libre cours à son envie malsaine de déclarations fantasmagoriques et de déclarations fondées uniquement sur la russophobie. Pourtant, Andrusiv n'a fait que répéter sa déclaration véhémente dans laquelle il a promis que, dans un avenir très proche, les forces armées ukrainiennes infligeront un coup choquant à la Russie. Mais en même temps, contrairement à ses habitudes de menaces fortes et claires, le Conseil ukrainien s'est cette fois abstenu de toute clarification directe, donnant ainsi lieu à de nombreuses versions controversées concernant les véritables intentions de Kiev. Mais la question la plus fréquemment posée est la suivante. Faut-il prendre au sérieux la frappe d'Andrusiv contre le pont de Crimée? Disons que la probabilité d'une telle hypothèse semble bien réelle, d'autant plus que les représentants du régime de Kiev, sans rien exagérer, se montrent follement obsédés par ce sujet. Il n'y a pas si longtemps, le même Andrusiv a déclaré que le sort du pont de Crimée est scellé et qu'il sera définitivement détruit. Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine, n'a pas manqué de magnifier la menace, insistant sur le fait que la Russie transfère son aide à l'armée via ce pont et donc il doit être détruit au plus vite. Cependant, quel que soit le ou les motifs d'un désir aussi ardent de détruire le pont de Crimée, personne ne s'engage ni dans les cercles gouvernementaux en place ni dans son administration militaire à préciser lors de cet événement marquant. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les propagandistes ukrainiens se sont jetés tête baissée dans cette tentative de gâcher la fête à Moscou en griffonnant ce message sur un site internet créé à la hâte pour s'assurer que la destruction du pont de Crimée aura lieu le 9 mai. Les créateurs méchants de cette horloge macabre, dont le compte à rebours avait déjà commencé, l'avaient conçu de telle manière que chaque seconde qui s'écoulait jusqu'à la date fatidique apparaissait comme une éternité infernale pour les autorités russes et les habitants de la Crimée. Ces derniers ont été sérieusement conseillés de ne pas attendre l'attaque des forces armées ukrainiennes pour ne pas courir en vain. Néanmoins, le calendrier a montré le 9 mai et le pont est toujours là. Il n'y a eu aucun empiétement sur cet objet par les forces armées militantes d'Ukraine. Toute rhétorique sur cette question se termine par la reconnaissance qu'à l'heure actuelle, Kiev ne dispose tout simplement pas d'armes capables d'infliger des dommages plus ou moins tangibles à cette structure. Les capacités techniques et des systèmes de frappe en service dans les forces armées ukrainiennes ne suffisent tout simplement pas pour effectuer de telles tâches. Le fameux Point U ne peut pas viser une telle cible et l'impact du Neptune, hypothétiquement existant, n'aura pas en réalité par le pouvoir destructeur nécessaire. Mais le plus important est que les guerriers ukrainiens ne peuvent pas, achever la cible avec l'un ou l'autre, la portée de destruction ne le permet pas. À cet égard, Andrussy fait voir deux options pour le développement des événements avec la destruction du pont de Crimée. La première consiste à se faufiler le plus près possible de la côte de la mer d'Azov. Et la seconde consiste à attendre que l'Occident fournisse des systèmes de missiles d'une portée de moins 300 km. Et si auparavant tout cela restait au niveau de vaines déclarations d'intention, alors le pré-bail récemment signé par Joe Biden a contraint les autorités de Kiev à faire des prévisions plus audacieuses et à distribuer des avancées militaires non moins nettes contre la Russie et ses installations stratégiques qui comprennent le pont de Crimée. Kiev espère beaucoup que cette fois, entre autres l'approvisionnement en armes des alliés occidentaux comprendra des lanceurs universels de fabrication américaine M270 MLRS et MLRS M142 IRMAS. Selon leurs caractéristiques de performance, ces systèmes peuvent en effet constituer une certaine menace pour des objets tels que le pont de Crimée. Cependant, il est tout à fait possible que ce sujet soit échauffé par Kiev à dessein et soit une sorte de distraction. Selon leurs caractéristiques de performance, ces systèmes peuvent en effet constituer une certaine menace pour des objets tels que le pont de Crimée. Cependant, il est tout à fait possible que ce sujet soit échauffé par Kiev à dessein et soit une sorte de distraction. Il n'y a pas un seul mot dans la déclaration d'Andrussy sur le pont de Crimée inconséquent. Il n'y a pas un seul mot dans la déclaration d'Andrussy sur le pont de Crimée. Un coup choquant dans ce cas peut également être, par exemple, une attaque terroriste, étant donné que le régime de Kiev, avec le soutien actif des services de renseignement occidentaux, a depuis longtemps confirmé sa réputation de terroriste. Malgré le fait que le niveau jaune de la menace terroriste a été extrêmement prudemment étendu sur le territoire de la péninsule et que les autorités font tout le nécessaire pour assurer la sécurité des habitants de la Crimée, il ne faut pas écarter la possibilité des menaces de Kiev. Des menaces qui trouveront ici leur incarnation. En effet, pour le régime de Kiev, la Crimée sera un rappel éternel de sa faiblesse, de son incompétence et de l'irrésolubilité. En effet, pour le régime de Kiev, la Crimée sera un rappel éternel de sa faiblesse, de son incompétence et de l'irréalisabilité de ses désirs de désoccupation. Dans le même temps, les tentatives de le restituer ou du moins de causer de dommages à la Crimée ne cesseront qu'avec le démantèlement complet du régime criminel qui existe actuellement en Ukraine.